Ce soir, Félix Tréguer, chercheur membre de la Quadrature du Net, auteur de l'Utopie déchue, Wissfeld.
Oui, il est. Alors, vous allez nous le dire, vous êtes chercheur en sciences sociales, vous refusez d'être qualifié de philosophe ou de sociologue. Effectivement, vous menez un travail qui multiplie les disciplines. Vous êtes donc chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS. Vous êtes post-doctorant aux séries à Sciences Po. Vous avez publié ce livre, c'est votre premier livre, c'est une vraie somme totale. On va en parler, mais je voulais rappeler effectivement que vous êtes membre fondateur de la Quadrature du Net. Alors, c'est une association dédiée à la défense de la liberté numérique. Vous avez commencé à travailler, je crois, très jeune dessus. Elle a été fondée en 2008, mais je crois qu'elle a été formalisée en 2013. C'est ça l'idée. Ses buts affichés, défendre les droits et les libertés des citoyens sur Internet, maintenir et promouvoir un Internet libre et ouvert, informer et mobiliser sur les projets qui mettent en péril les libertés et proposer les alternatives aux solutions favorisées par les législateurs. Elle s'est imposée, cette association, progressivement dans le débat public, notamment au moment de la mise en place d'Adopi et de la réponse graduée. Là, vous avez beaucoup fait parler de vous. Je crois que Christine Albanel, vous avez qualifié de 4 mecs dans un garage. Bon, la suite a prouvé que non. Voilà, c'est ça. Vous avez fait campagne contre le projet de loi relatif au renseignement. Et plus récemment, je voulais qu'on aborde cette question parce que c'est votre actualité. Vous avez déposé un recours contre l'expérimentation des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée du lycée Les Égalitistes à Nice. Ça, c'est une volonté de Christian Estrosi, je crois. Oui. Vous aviez fait ce recours l'année dernière. Et là, il y a une décision du tribunal administratif qui est attendu, je crois, dans les jours qui viennent.
D'ici la fin du mois, en tout cas.
Alors, qu'est-ce que c'est l'enjeu ? Parce que vous faites partie des adversaires, en tout cas, de la reconnaissance faciale. On en a parlé avec Emmanuel Paquette l'année dernière. Il y a un moratoire à l'échelle européenne qui a l'air de tomber un petit peu à l'eau. Où on en est de cette question de la reconnaissance faciale ?
Ouais, alors, c'est ce recours sur l'expérimentation de la reconnaissance faciale dans les lycées de la région PACA a été effectivement déposé l'année dernière par la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme, la CGT Éducation et des parents d'élèves. On en a déposé un nouveau aussi sur la vidéosurveillance automatisée qui se déploie à Marseille et bientôt d'autres recours se profilent sur d'autres villes où cette technologie arrive. En gros, ça correspond à une mutation un peu de nos dossiers. En effet, à mesure que l'informatique prolifère et que ses usages en matière de contrôle social s'étendent en dehors d'Internet et maintenant dans nos villes, il s'agit pour nous, à travers une campagne qu'on a lancée, d'organiser d'abord, de documenter en fait ces développements, reconnaissance faciale, police prédictive, j'en passe, c'est des meilleurs.
Parce qu'effectivement, c'est un enjeu, ils ne sont pas nécessairement extrêmement connus.
Non, c'est ça qui est le plus choquant.
À part quand Christian Estrosi, on fait un argument de campagne, en l'occurrence sur le lycée Nice, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les endroits où l'institution d'État utilise ces technologies.
Absolument. En fait, il y a quelques élus, notamment dans le Sud-Est, dont les discours sécuritaires font qu'ils n'ont aucun problème à assumer ces politiques, mais en fait, c'est des choses qu'on voit poindre depuis 4-5 ans. Du côté de la SNCF, dans des villes comme Valenciennes, Toulouse, Paris aussi, avec la préfecture de police de Paris qui a testé ces technologies aussi depuis plusieurs années. Et le problème majeur, en fait, le premier problème auquel on se confronte, c'est l'opacité qui entoure ces développements. Là où aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a une certaine transparence proactive des pouvoirs publics en la matière, et ce serait bien la moindre des choses. En France, tout cela se passe avec un manque de transparence vraiment choquant. Et au-delà de ce manque de transparence, l'enjeu aussi, c'est de refuser ces formes de contrôle social massif qui se déploient dans nos villes.
Mais alors, on va y revenir. Mais qu'est-ce qui vous dérange, on va le dire frontalement, dans le système de la reconnaissance faciale ? C'est un peu l'enjeu de votre livre, votre projet, on va en parler, mais la question de l'abandon total de la suspicion préalable pour exemple,
tout simplement la reconnaissance faciale, et en fait on parle beaucoup de la reconnaissance faciale, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a d'autres applications de ce que nous on appelle la vidéosurveillance automatisée, les promoteurs l'appellent la vidéosurveillance intelligente. Elle permet de faire de la reconnaissance de démarches qui permet d'identifier des individus, nos démarches sont aussi des signatures qui permettent de nous identifier, d'accoutrements vestimentaires, de signes distinctifs divers et variés. En fait, ces technologies s'assimilent à une forme de contrôle d'identité permanent, invisible et incontestable et généralisé. Et donc c'est des formes de contrôle qui mettent fin à l'anonymat dans nos villes et des formes de liberté qu'on devrait chérir en démocratie.
Alors justement, c'est l'objet de votre livre, L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, 15e siècle, 21e siècle. C'était quoi le projet de ce livre ? Vous le dites, c'est une contre-histoire, donc c'est un livre extrêmement conséquent qui en revient, qui se place sous le signe de Michel Foucault ou d'Habermas, clairement, où vous essayez de faire une espèce de contre-histoire de la manière dont, selon vous, et c'est la thèse de votre livre, l'espace public est d'une certaine manière systématiquement réinvesti par l'État et par une volonté de contrôle.
Mais moi, en fait, j'ai rejoint la Quadrature du Net il y a plus de 10 ans avec cette idée que effectivement Internet allait permettre de démocratiser l'espace médiatique. J'ai beaucoup cru en ces utopies fondatrices et à force de se casser les dents contre des projets législatifs et des formes et l'évolution aussi de l'économie politique d'Internet, sa recentralisation sous l'égide de l'oligopole du numérique, Google, Facebook et j'en passe. C'est voilà, l'idée c'était de faire sens en fait de cette réaction de ces formes de reprise en main d'un espace médiatique qu'on avait cru émancipateur et qui en fait s'accompagne de formes de contrôle social, de formes de censure, de surveillance extrêmement massive, de plus en plus automatisées, qui vont complètement à rebours de la promesse libérale au sens du libéralisme politique, qui est censée sous-tendre nos régimes politiques.
Mais alors justement, vous revenez quasiment à vous en repasser par l'édition, hein, c'est pour ça que ça commence au 15e siècle, et vous arrivez jusqu'à en fait essayer de décrire aussi en creux une contre-histoire, ou en tout cas de définir à contrario une certaine idée de la liberté d'expression. Vous montrez comment la loi change. Comment à la fois elle progresse en 1789, puis elle régresse à nouveau pour à la fois s'établir dans une définition importante qui est celle de la loi de 1881 qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement à l'État ? Vous parlez d'un oligopole, mais effectivement le centre de ce sujet c'est l'État et on a souvent, intuitivement, le grand public et avec nous ici, les gens qui commentent à Softpower, l'impression que la question de l'État est presque, on va dire, dérisoire aujourd'hui avec notamment l'émergence de grands acteurs comme Google et Facebook face auxquels l'État semble désormais. Alors c'est quoi l'enjeu ?
Alors l'enjeu de revenir si loin en arrière, c'était justement de comprendre comment tout un tas de formes de contrôle des médias, de régulation de la liberté d'expression, de surveillance des opinions, remontent vraiment à la genèse de l'État moderne au XVIe siècle, en lien aussi avec les usages contestataires de l'imprimerie à l'époque. Et une constante dans l'histoire des médias, c'est justement l'alliance entre l'État et le gouvernement des sociétés de masse avec les intermédiaires techniques et ceux qui gèrent les moyens de communication.
Alors donc c'était les imprimeurs libraires,
ouais. C'était ceux qui effectivement ont déployé les premiers réseaux de télécommunication au 19e siècle. Ça a été bien évidemment les grands groupes de presse et de médias au moment de la libéralisation de l'audiovisuel dans les années 80. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, bien plus qu'une forme de reprise en main ou une forme de régulation de l'économie numérique, hein, où les États tapent du poing sur la table pour remettre de l'ordre dans l'économie numérique. Moi, je crois que ce à quoi on assiste, c'est plutôt la cooptation des formes de gouvernement, de prédiction des comportements qui ont été développés sous l'égide du capitalisme de surveillance mis au point par Google, Facebook et d'autres, par les États, pour censurer, pour surveiller. Parce que c'est des formes de régulation de nos espaces d'expression qu'avaient mis en place ces grandes plateformes à des fins publicitaires et qui sont aussi extrêmement intéressantes du point de vue de ceux qui président à l'État aujourd'hui. Mmh. Et dans le débat sur les fake news, dans le débat sur la répression des discours de haine, plein de choses qui ont l'air comme ça tout à fait légitimes. Nous, il nous semble qu'il y a plein d'autres manières de lutter contre ces dérives et ces problèmes qui tiennent en grande partie au modèle économique de ces grandes plateformes, il faut le rappeler. Mais plutôt que d'explorer ces autres solutions, on préfère promouvoir la censure automatisée, comme c'est le cas à l'heure actuelle de la proposition de loi sur les discours de haine en France ou du règlement européen contre la propagande terroriste. On préfère aussi mettre en place des groupes de contact avec Google et Facebook au niveau du ministère de l'Intérieur pour savoir comment on va pouvoir faciliter l'accès des autorités françaises à leurs serveurs à des fins de surveillance. Il y a plein d'exemples de ce type.
Voilà, je vais garder ma question avocat du diable pour la fin, mais effectivement, ce qui est aussi très intéressant dans ce livre, et pour le coup, on a eu effectivement longtemps et dans plusieurs livres une histoire aussi de ces 10 dernières années, de la manière dont des endroits que des personnalités comme Julian Assange pour Wikileaks ou Edward Snowden ont d'une certaine manière mis le doigt sur ces questions de la surveillance de masse. Vous l'écrivez côté français avec des figures qu'on connaît pas nécessairement autant, Laurent Chemla qui fait partie aussi des gens qui travaillent. Disons à vos côtés, un jeune hacker qui dans les années 80 pose le doigt sur ces questions-là, et puis des personnalités comme Stéphane Bortmeyer que moi je connaissais pas, qui a été à la tête de la CNAM, du CNAM, du Conservatoire National des Maîtrises.
Il n'était pas à la tête du CNAM, il était informaticien.
Il était informaticien au CNAM, et lui fait partie des gens qui. Alors c'est quoi cette histoire française ? Elle existe quand même en fait, parce qu'on parle souvent effectivement de la NSA. Vous êtes concrètement aussi, vous documentez ce qui se passe du côté de la DGSE, de la DGSI ?
Oui, l'enjeu c'était un petit peu d'aller d'aller à rebours d'une historiographie d'Internet qui est largement dominée par le contexte états-unien et anglo-saxon de manière plus générale, et de retrouver des traces de cette histoire française ou européenne en matière de cette histoire politique d'Internet. Les informaticiens dont vous parlez, ça fait partie en France, en effet, des informaticiens politisés qui, dans les années 90, vont contribuer à équiper les mouvements sociaux et essayer d'outiller ces mouvements sociaux en leur apportant, en fait, Internet, tout simplement. Et un exemple, c'est effectivement Burt Meyer et Laurent Chemla qui, en 95, au moment du mouvement contre la réforme des retraites, déjà à l'époque, vont travailler avec des syndicalistes des postes et télécoms de chez Sud, récupérer un vieil ordinateur et monter les toutes premières mailing lists, les tout premiers sites web qui vont permettre à toute une génération, une génération de militants, d'explorer les potentialités d'Internet et d'approfondir ces usages militants d'Internet. Et ça renvoie en fait aux expérimentations d'Internet par une mouvance très diverse, qui est la mouvance altermondialiste à la fin des années 90.
Et alors vous, pour conclure et pour se faire effectivement potentiellement l'avocat du diable, dans une conclusion qui est assez, on va dire, incisive et synthétique, parce qu'elle fait je crois 3 pages sur un livre qui en fait plus de 300, vous prenez, vous qui pourtant, vous le dites, vous avez été un grand enthousiaste, vous prenez une désescalade numérique ?
Ouais, je crois que, j'en suis vraiment venu à penser, face à la vraie promesse d'Internet et de l'informatique, et ce qui a pu générer ces utopies, c'est l'apparition de l'ordinateur personnel. À partir du début des années 80, on n'est plus dans le schéma où l'ordinateur est simplement une grosse machine qui équipe les grandes organisations, les grandes bureaucraties. On sort en fait d'une période de critique intense de l'informatique au sein du champ de la critique sociale, du champ militant dans les années 70.
Parce que ça, vous le rappelez quand même, initialement l'ordinateur et l'informatique vient des milieux militaires américains, puis finalement elles s'en émancipent, et finalement aujourd'hui, au moment où elles s'en émancipent, on perd la critique.
Mais justement, je crois qu'on revient dans une période, une période technocritique qu'on avait connu et beaucoup trop oublié sans doute des années 70, où l'informatique à l'époque était l'informatique des grandes organisations. Elle était critiquée en matière de précarisation du travail, comme peut l'être aujourd'hui l'intelligence artificielle. Elle était critiquée du fait de son usage en matière de surveillance d'État. Et je crois qu'aujourd'hui, on revient à une centralisation très forte de l'informatique à l'aune de ces nouveaux paradigmes que sont le big data, l'intelligence artificielle. On est dans un contexte politique sécuritaire qui permet l'appropriation en fait de ces nouvelles incarnations de l'informatique à des fins de contrôle social. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut faire vivre l'imaginaire d'une désescalade technologique.
L'imaginaire, à défaut peut-être
d'une version... D'abord l'imaginaire et ensuite en déduire des répertoires d'action et faire vivre des répertoires d'action qui permettent de l'incarner dans des pratiques militantes et de résistance, bien évidemment.
Avocat du diable encore, ce que vous décrivez, c'est un Internet idéalisé dans les garages avec les hippies, pour caricaturer. C'est le marché et les États qui ont permis à Internet de toucher tout le monde et plus seulement les geeks, les hipsters et les anarcho-utopistes. Il y a des dérives, des problèmes, mais ça continue à être des outils utiles, formidables, qui font gagner du temps, Wikipédia et Firefox, et le billet de TGV est dématérialisé, le musée du Louvre, etc., on en a parlé. Pourquoi être si pessimiste, si inquiet, et ne voir finalement que l'Internet vide et non pas l'Internet plein ?
Moi, je crois toujours qu'en effet, il peut y avoir des usages médiatiques d'Internet pour faire circuler la connaissance, les savoirs, et les expressions publiques, et tout ça est bien évidemment toujours là. On est aussi obligé de constater que certains approfondissements du processus de démocratisation dans nos sociétés ont eu lieu sans Internet. Et on est dans une période où, depuis 20 ans qu'Internet transforme nos sociétés, on ne peut pas dire que la démocratie ait largement progressé, même si peut-être qu'en effet l'accès à l'information a été rendu plus pratique, plus ubiquitaire. Et donc bien évidemment il y a des usages émancipateurs d'Internet encore, il y a des mouvements sociaux qui se l'approprient pour transformer la société dans une direction que...
Mais est-ce que c'était pas naïf de croire que le marché et l'État ne seraient pas là? Est-ce que c'est pas grâce au marché et grâce à l'État que l'Internet aujourd'hui est ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui du matin au soir nous accompagne, et que ça aurait pas été le cas s'il était resté encore une fois entre les geeks et les hipsters?
Je crois que de fait il y a des gens qui font vivre Internet sur un modèle très différent, de manière beaucoup plus low-tech et décentralisé et du bricolage.
Non, mais même ceux qui le font avec le marché. Après tout, on avait des supermarchés, on les a aujourd'hui sur Internet. C'est bien d'avoir des choses sur Internet, de pouvoir acheter des produits, de pouvoir vivre, de pouvoir...
C'est là où moi je suis obligé de constater que le commerce électronique est en train de vider les villes moyennes et moins moyennes de leur commerce de proximité. Et je pense qu'en fait, il y a plein de
dérives.
De dérives, en fait, et d'évolution de nos sociétés vers le tout technologique, vers la centralisation qu'induit en effet des communications toujours plus rapides à travers l'informatique.
Merci à vous, Félix Tréguer. Le livre a paru en septembre, Réseau SF, c'est ça? Mais vous aviez déjà
tout
été reçu sur France Culture,
disponible.
Mais on avait pensé intéressant de vous réinventer. De vous réinventer,
pardon. C'est très beau, cela.
On l'a réinventé.
Il est disponible chez Fayard à la collection Avenir, qui est dirigée, je crois, par Geoffroy de la Gannerie. Et donc, c'est une belle somme. Belle somme contre-histoire.
Soft Power, dans un instant, la suite de cette émission consacrée à Télérama, le magazine hebdo télé que nous allons passer en revue, mettre sur le grill. Et je reçois dans un instant Catherine Sueur, la présidente du directoire de Télérama. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power pour suivre l'actualité des industries créatives, du numérique, des médias et de la politique culturelle chaque semaine. Et ce podcast est disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Ça fait beaucoup de choses que vous aviez décriées, Félix Tréguer. On peut nous trouver sous tous ces outils commerciaux qui existent aussi dans le monde.